BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Aspantas.
Allez, mon premier invité ce soir dans le grand journal de l'écho, c'est le directeur général de la Compagnie des Alpes. Bonsoir Dominique Thillot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du grand journal. Compagnie des Alpes, bon, on vous connaît évidemment, leader européen des parcs de loisirs et des stations de ski. Vous avez présenté hier soir après bourse vos résultats du premier semestre. Ils sont très bons. Vous en profitez même pour relever vos perspectives annuelles. Les marchés ont adoré, on le dit, plus 14,5%. Ce soir, à la clôture, donc évidemment on va y revenir. Mais d'abord, juste une question d'actualité, on en parlait pendant la pause, Dominique Thillot. Pas de ministre du logement, lapsus, mais pas de ministre du tourisme dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous le regrettez? Justement, les professionnels du logement disent c'est un scandale, on n'a pas de ministre. Dans le transport aussi, ils disent on n'a pas de ministre. Est-ce que vous, dans le tourisme, vous regrettez qu'il n'y ait pas un ministre à temps plein pour vous?
Je pense que c'est effectivement c'est un signal, mais qui sera probablement corrigé après les législatives. C'est toujours intéressant d'avoir un secrétaire d'État ou un ministre du tourisme qui peut porter la parole, qui connaît mieux bien les sujets et qui peut porter, influer sur certaines décisions. Je pense que c'est un atout compte tenu de ce que représente le tourisme dans le PIB de la France.
Bah oui, c'est 10%, hein, c'est ça, du PIB.
Enfin, voilà, oui, à peu près.
Mais donc, quelque part, c'est un peu curieux, non? De pas avoir, vu l'ampleur, vu le poids de votre filière dans le PIB du pays.
Oui, c'est sûr.
Ça envoie un signal peut-être un peu contradictoire.
Oui, mais on a bien compris que je suis pas un spécialiste de la politique française. On a bien compris que les choses allaient se faire en deux temps. Je crois qu'il a été plus ou moins dit qu'il y avait un certain nombre de compléments, entre guillemets, sans être désagréable, mais de compléments qui allaient être apportés après les législatives. Après,
Bon, pas d'inquiétude
alors. Je suis pas dans l'inquiétude du tout. Je pense que c'est un enjeu. Ben, on l'a vu pendant la crise Covid, qui était au cœur et au top, j'allais dire, des préoccupations aussi du gouvernement. Donc, il n'y a pas de remise en cause. Faut pas surinterpréter ce qui est un sujet de concordance de date.
Alors, bon, et ben confirmation, donc effectivement, ou pas, après les législatives, au lendemain du deuxième tour du 19 juin. Donc, je le disais, Compagnie des Alpes, vous publiez hier soir d'excellents résultats pour le compte du premier semestre. Vous avez un exercice décalé, hein, ça va
absolument.
Du 1er octobre au 30 mars. Plus 16% d'activité par rapport à ce que vous faisiez avant la crise. Donc, effectivement, c'est significatif. Vous relevez vos perspectives pour cette année, du coup. Et je le disais, donc vous flambez aujourd'hui en bourse, hein, vous clôturez à plus 14,5% ce soir à Euronext. À quoi vous attribuez ces très bons résultats?
Bah, d'abord aux engagements, à l'engagement des équipes de la Compagnie des Alpes. Dans une situation qui a été compliquée, on a pu, dans les parcs de loisirs, sur octobre, novembre, décembre, notamment la période de Noël et d'Halloween, continuer à opérer de manière très qualitative, et les clients l'ont vu. Et puis dès les débuts de la saison de ski, alors on se disait que début janvier, quand il y avait encore le variant Omicron et les restrictions de voyage, notamment sur le Royaume-Uni, qui est un gros marché, on n'était pas très fiers, j'allais dire. Heureusement que les choses se sont rétablies par la suite. Mais on reste quand même avec un petit retard en volume, 5% de moins, en volume sur les journées skieurs. C'est vrai que dans les stations de ski que nous opérons, que nous avons la chance d'opérer, la clientèle britannique est une proportion assez forte, type Val d'Isère, Méribel.
Voilà. Et là, bon, donc effectivement, les clients sont revenus massivement.
Absolument.
La tendance, là, pour les 6 prochains mois, ne serait-ce que même, là, il y a l'Ascension qui démarre ce soir.
L'Ascension va être un grand week-end. Et depuis l'ouverture des parcs, les tendances sont très bonnes.
D'accord.
Et donc, c'est effectivement ce qui nous a amené à indiquer qu'on devrait dépasser assez largement les résultats de l'année 18-19. Donc, les résultats au 30 septembre 2019, qui avaient été déjà l'année record de la Compagnie des Alpes.
D'accord.
Et qui 2018-2019,
c'était la meilleure année de l'histoire du groupe.
Oui, après, il y a eu ces deux années compliquées.
Bien sûr. Et en fait, vous, effectivement, votre guidance, comme on dit, enfin vos trajectoires, c'était de retrouver en 2022-2023 les résultats de 2018-2019.
Oui, exactement. Voilà, on était plutôt prudent, mais il faut dire qu'au moment où on a fait tous ces budgets, ces prévisions, on était dans une situation encore assez complexe,
sanitairement,
d'une période qu'on essaie d'oublier. Mais là, effectivement, jusqu'au 15 janvier, je le disais, fin janvier, on était encore dans une situation assez complexe. La fin de saison a été très bonne, de ski, hein, je parle. Et puis, on reste optimiste sur les 6 prochains mois.
Avant la pandémie, c'était combien de chiffre d'affaires annuel, Compagnie des Alpes?
Ah, on était à 800 et quelques millions.
Ouais.
Et voilà.
Et là, cette année, alors?
Bah, cette année, on verra ça le moment
venu. Non, mais une fourchette, un ordre de grandeur. Quand vous dites, on fera mieux que cette année.
Non, mais je pense qu'on sera, on sera supérieur à 814 millions qui était le chiffre de 2019. Et on fera significativement mieux. Il faut que vous compreniez que je peux pas donner de chiffres, mais.
Non, sans un chiffre précis, mais juste pour comprendre. On reste en dessous du milliard, en tout cas?
Oui.
Oui, quand même.
Je pense.
Et alors, dans le détail, au premier semestre, le chiffre d'affaires de vos domaines skiables a progressé de 11%.
Oui.
Et des parcs d'attractions, plus 29%. C'est-à-dire que quand tout a rouvert, les gens sont plus allés dans les parcs que dans les stations de ski? Il y a eu trois fois plus de croissance dans vos parcs que dans les stations.
Oui, on peut le dire, mais il y a aussi des extensions de période d'ouverture, notamment sur Halloween et sur Noël également. Il y a eu plus d'appétit, effectivement, pour les parcs de loisirs. Mmh. On a rénové le produit, investi comme jamais on avait investi sur la thématisation, l'événementialisation pour la période Halloween. Mmh. Et puis le ski, il y a eu ce démarrage, un peu ce faux démarrage, qui effectivement, comme je l'indiquais, nous a coûté un peu de volume, mais que nous avons pu récupérer sur la fin. Je pense que ça reviendra en termes de volume à un niveau.
Alors effectivement,
tout à fait correct l'année prochaine.
En volume, donc la fréquentation au domaine skiable, c'est moins 5%,
absolument,
notamment à cause des Grandes-Bretagnes. Mais le revenu moyen par client a augmenté de 10%.
Oui.
Et parc de loisirs, fréquentation plus 10%, dépenses plus 19%. Ça veut dire quoi ça, Dominique Sio, que vous avez augmenté vos prix un peu partout?
On n'a pas nécessairement, franchement, augmenté nos prix. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout ouvert. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu des problèmes aussi de recrutement sur un certain nombre de points de restauration. Là, on a pu tout ouvrir. Et d'ailleurs, on n'est pas trop touché, même si c'est un sujet permanent, le recrutement, notamment dans les personnels de restauration hôtellerie, comme vous le savez, qui est un sujet qui nous dépasse.
Bien sûr, j'allais vous poser la question, parce que là, à nouveau, c'est l'été. À nouveau, on a tout un tas de professionnels du tourisme qui nous disent « je manque de bras, je pourrais faire beaucoup plus d'argent si j'avais du personnel ». Vous, non, ça ne vous concerne pas?
On reste vigilant. Pour l'instant, on a mis à bloc, j'allais dire, nos campagnes de recrutement.
Ouais.
On essaie d'être sans doute un petit peu plus généreux. On essaie à la fois aussi d'organiser le travail différemment, c'est-à-dire peut-être 4 jours, puis 3 jours libérés, j'allais dire.
D'accord.
Voilà,
on bosse 4 jours et on a 3 jours.
Exactement. Et donc ça
correspond bien. Et vous avez augmenté les salaires?
On a augmenté les salaires suivant la grille, mais on est de toute façon un tout petit peu plus que le.
C'est-à-dire,
que
vous, votre grille, c'est la grille HCR, plus 16%, l'accord qui a été signé?
Oui, mais ça concerne la première étape de la grille de salaire. Oui, nous, on comment ça s'appelle, on s'aligne sur notre convention collective.
Mais vous, c'est votre convention collective, ça?
Oui, mais nous, c'est un métier de service. On a une intensité humaine, si je peux m'exprimer comme ça. On a une intensité humaine telle que c'est le cœur de notre métier. Voilà, c'est pas seulement les attractions en elles-mêmes, c'est aussi l'accueil, l'accompagnement, la maintenance.
Non, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi chez vous on manque pas de bras alors que partout ailleurs il en manque.
On essaie d'être le plus percutant possible, et puis on offre un certain nombre d'accompagnements aussi autour, les repas, etc. Mais on fait des choses pour être attractif.
Alors, on le disait, donc les dépenses augmentent significativement chez vous. Ça veut dire que l'inflation, quelque part, touche pas votre business? Vous êtes imperméable à cette conjoncture d'inquiétude autour du pouvoir d'achat?
Non, on n'est jamais imperméable. C'est un sujet de préoccupation, bien sûr. D'abord, pour les coûts, comme vous imaginez. Mais après, on est peu soumis aux risques géopolitiques, j'allais dire internationaux. L'inflation, elle est là, certes. Mais on a surtout une clientèle relativement domestique, à 2-3 heures autour de nos parcs d'attractions.
Ah, d'accord. Alors, votre clientèle, elle est franco-européenne?
Elle est franco-française.
Essentiellement?
Essentiellement en France. D'accord. Elle est belgo-belge, essentiellement. Même s'il y a un peu de français en Belgique, etc. Par pays, en Autriche, nous avons un parc en Autriche, d'accord, qui est en grande partie aussi Hongrie, puisqu'il est très proche de la frontière hongroise.
D'accord.
Voilà. Et donc,
dans tous ces pays, il y a des inquiétudes autour du pouvoir d'achat. C'est l'inquiétude
absolument,
numéro un.
Absolument.
Et pourtant, les gens donc vont dépenser. Enfin, ça coûte cher d'aller au ski, d'aller dans les parcs d'attractions. C'est des budgets. Les gens n'ont pas sacrifié ces budgets-là.
Oui, mais on le voit aussi. On l'a vu l'année dernière en France. Moins de gens sont partis à l'étranger. Sont plus restés sur la France, passer leurs vacances sur la France, et donc dans ce cadre-là, le plaisir ou le week-end, moins parti en week-end, et dans ce cadre-là, l'expérience qui est proposée par nos parcs est tout à fait intéressante.
Et vous dites l'inflation, ça vous concerne aussi, évidemment.
Bien sûr.
Vos coûts, ils ont augmenté de combien?
Nos coûts, on est à peu près à 5-6% d'augmentation de nos coûts. C'est principalement lié cette année au coût de l'électricité,
l'énergie,
qui a été absolument incroyable, puisque ça a quasiment doublé en 6 mois, sur les 6 mois derniers mois de l'année dernière.
Chez vous? Votre facture énergétique,
chez moi, chez tout le monde, c'était ouais, le prix.
Chez vous, ça a fait x2.
Le prix, donc. Voilà, nous, on achète à partir du 1er janvier, donc l'effet année pleine sera cette année. Mmh. Donc, effectivement, on a un sujet sur l'énergie, l'électricité, les carburants, et puis aussi sur l'acier, puisque l'acier, en début de crise Covid, a connu une croissance, une croissance de son prix absolument incroyable depuis les 12 dernières années.
D'accord.
Voilà. Et donc, on est exposé à ces risques-là. On prend des mesures pour s'en prémunir. On essaie d'être en contrôle, en maîtrise de la dérive de nos charge en prenant un certain nombre de
mesures. Ça a l'air de pas trop mal marcher, puisque vous annoncez aussi dans votre communiqué des résultats que vous vous êtes beaucoup désendetté. La dette, il y a un an, elle frôlait le milliard. Aujourd'hui, on est à 419 millions. Bon, ça reste beaucoup, mais quand même, c'est une dette qui a été plus que divisée par deux.
Oui, absolument. Et le 31 mars, c'est le moment de l'année où on a, entre guillemets, encaissé, pas complètement fini nos investissements.
Et alors, c'est quoi la trajectoire de désendettement, là, à venir?
Ah, ben là, on avait prévu initialement une guidance, comme vous disiez, entre 3 et 3,5 fois l'excédent brut.
Ouais.
Là, on sera très nettement inférieur à 3. Voilà.
Et donc, ça veut dire quoi, concrètement, en argent, en montant?
En montant, je peux pas donner le montant, encore une fois, je suis désolé, mais on sera.
Là, aujourd'hui, vous êtes, le 31 mars, vous étiez à 419. Donc trois fois le...
Pour 230 millions de BO, donc voilà. Ça fait un peu plus qu'un et demi, quelque chose comme ça, voilà.
Et vous aviez pris un PGE, hein, il me semble.
Oui, on a pris un PGE qu'on a partiellement remboursé, partiellement prolongé. Et donc...
Vous en êtes où là-dessus?
Ah ben là, on continue notre remboursement et
comme ça va bien pour vous, vous pourriez rembourser là maintenant, enfin en finir avec votre PGE, non?
Oui, enfin c'est des questions qu'on se pose. Mmh. Il faut reconnaître aussi que quand on l'a prolongé et qu'on veut le rembourser par anticipation, il y a beaucoup de frais qui sont attachés et donc c'est juste un arbitrage purement financier.
Ah, ça coûte des frais de rembourser plus vite que prévu?
Ça coûte des frais pour le prolonger et ça coûte des frais pour le rembourser plus vite que prévu.
D'accord. Bon,
voilà.
Info importante pour les gens qui nous écoutent. Puisqu'on est en pleine saison du début du remboursement des PGE aussi. Hein. Il nous reste une minute, Dominique Thillot. Vous le disiez, vous investissez aussi beaucoup. Vous avez mis 65 millions d'euros dans vos sites au premier semestre. Vous avez une enveloppe de 160 millions sur l'ensemble de l'année. Mmh. C'est pour faire quoi, tout cet argent?
Eh bien, pour investir à la fois dans des nouvelles attractions, comme celles qui vont ouvrir, ou des hôtels, un hôtel au Futuroscope, une nouvelle attraction aux chasseurs de tornades, et puis préparer l'avenir, même le 160 millions sur l'année. On a prévu l'année prochaine, compte tenu l'augmentation du prix de l'acier, mais d'ores et déjà, on avait prévu plus de 200 millions. Et donc, on sera dans ces eaux-là. Nous sommes un très gros investisseur. Là aussi, on a de l'intensité humaine et de l'intensité capitalistique. Très gros investisseur, évidemment, sur les territoires de nos stations de ski et évidemment sur nos parcs d'attractions. Ça va de soi. Un très gros investissement en cours au parc Astérix pour l'ouverture l'année prochaine, avec une attraction qui sera absolument unique au monde.
Ah ouais, alors dites-nous, faites-nous saliver, là sera le mot de la fin.
Ah bah ça sera le nom, c'est Toutatis et ça sera quelque chose avec un absolument incroyable, mais on fera la...
C'est quoi, c'est un grand 8?
C'est un roller coaster effectivement,
ah ouais, un grand 8
mais
en
avec
français,
avec ouais. Oui, mais voilà, avec un lanceur magnétique nouvelle génération, quelque chose qui sera absolument révolutionnaire. Jamais vu.
Ok, bon, eh ben, voilà. C'est bien, c'est un
ça
bon
teasing.
Ça
donne envie de revenir.
Ouais, voilà. On ira voir ça. Merci Dominique Thillot, directeur général de la Compagnie des Alpes, d'avoir été notre invité ce soir dans le Grand Journal. Votre interview à retrouver d'ores et déjà en ligne sur nos réseaux sociaux et puis en podcast, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci
bientôt
beaucoup.
18h30 sur BFM Business, on marque une pause. Dans un instant, le journal de Claire Sergent et puis je serai ensuite avec Olivier Deguerre, président du fonds d'investissement Fitrust, l'un des actionnaires de Total Energy. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'œil de Jean-Marc Daniel.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
On le voit dans l'actualité, aujourd'hui c'est la journée des assemblées générales et on se pose cette question depuis ce matin. Qui gouverne les entreprises? Est-ce que ce sont les actionnaires ou est-ce que ce sont les dirigeants?
Oui, c'est une question effectivement qu'on pourrait se poser vu le côté un peu spectaculaire qu'ont pris certaines assemblées générales d'actionnaires. Je mets à part les manifestants qui étaient devant Total, mais les gens qui étaient à l'intérieur, qui eux étaient en train de débattre de l'avenir de la compagnie. Alors, assez curieusement, où ça a commencé dès le départ. C'est-à-dire que d'emblée, quand les entreprises sont apparues, la question s'est posée de savoir quelle était la réalité du pouvoir entre l'actionnaire, celui qui était supposé être le propriétaire de l'entreprise, et l'équipe dirigeante, managériale, même si on parlait pas de ça. Et ça s'est posé dès le XIIe siècle. En fait, la première entreprise vraiment créée en tant que forme d'entreprise un peu moderne, l'a été à Toulouse, dans une, ce qu'on appelle les moulins de Bazacle. Le Bazacle, c'est à la sortie de Toulouse, c'est en aval de Toulouse, c'est une zone où la Garonne se coupe en plusieurs petits morceaux, et donc un certain nombre de minotiers avaient installé sur ces rivières, sur ces morceaux de la Garonne, des moulins. Et ils ont décidé de se mettre ensemble et de créer une entreprise qui s'appelait une société qui s'appelait la Société des Moulins du Bazacle. Et puis un beau jour, un des membres de l'association, un des membres de la société, a voulu confier son moulin à sa fille dans l'occasion d'un mariage, ça devenait sa dot, et les autres lui ont dit non, le moulin ne t'appartient pas. Il appartient à l'entreprise. Ce qui t'appartient, c'est des actions. Et si ta fille n'est pas d'accord avec la façon dont nous gérons les moulins, elle vend ses actions. Mais le moulin et les décisions qui sont prises au sein de l'entreprise ne lui appartiennent plus, elle est simplement en capacité de décider ce qu'elle fait ou non de ses actions. Mmh. Et donc, dès le XIIIe siècle, dès le XIIe siècle, est apparue cette idée que l'entreprise était autonome par rapport à l'actionnaire, que l'actionnaire n'était pas uniquement le propriétaire, c'était pas le charbonnier qui est maître chez lui, c'est quelqu'un qui devient une sorte de partie prenante. Mmh. Et alors, cette notion de partie prenante va prendre de plus en plus d'ampleur. Au XXe siècle, tout le monde connaît le livre de Galbraith qui paraît en 1967, Le Nouvel État Industriel, où il dit, l'actionnaire est en train de s'effacer au profit de l'ensemble des parties prenantes que sont les salariés, les fournisseurs, les clients et les managers. Il dit même l'entreprise, il n'y a plus de différence entre l'entreprise capitaliste et l'entreprise des pays d'Europe de l'Est. Il prend des exemples d'entreprises en Tchécoslovaquie qui est le pays le plus développé et aux États-Unis en disant dans les deux cas c'est des managers, il y a une formation d'ingénieurs et une formation commerciale qui dirige l'entreprise et que l'État tchécoslovaque ou l'actionnaire, le détenteur d'actions de General Motors ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, par rapport à ce qu'a dit Galbraith, on est plutôt quand même revenu en arrière. L'actionnaire a son mot à dire, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas se faire d'illusions. Bien qu'étant propriétaire, l'actionnaire est quand même essentiellement propriétaire des actions. Ouais. Et la façon qu'il a de manifester son mécontentement, c'est évidemment dans les assemblées générales de dire qu'il n'est pas d'accord. Et puis s'il n'obtient pas gain de cause, c'est de partir, c'est-à-dire de revendre ses actions, ouais, comme la fille du minotier de Toulouse au XIIIe siècle.
Passionnant retour sur l'histoire économique. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel d'avoir été là avec nous ce soir dans le Grand Journal de l'Écho. On marque une pause et justement on continue de débattre de tous ces sujets en 2022 avec Olivier Deguerre, le président du fonds d'investissement Fitrust, l'un des actionnaires de Total Energy. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
La suite du grand journal et on revient donc sur l'un des événements du jour. Cette assemblée générale de Total Energy, vous l'avez vu dans le journal, qui s'est déroulée dans des conditions très particulières, très tendues, salle Pleyel, et qui était très attendue cette AG après que plusieurs investisseurs du groupe pétrolier avaient déclaré avant même la tenue de l'assemblée générale qu'ils voteraient contre la stratégie climat, le rapport climat du groupe pétrolier. Bonsoir Olivier Deguerre.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir dans le grand journal de l'écho. Vous êtes le président du fonds d'investissement Fitrust. Vous êtes l'un des actionnaires de Total Energy. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Est-ce que vous avez voté pour ou contre la résolution climat?
D'abord, ce matin, nous n'avons pas pu rentrer. Je n'ai pas pu rentrer dans l'Assemblée générale à 9h du matin, une heure avant l'Assemblée, parce qu'il y avait des ONG qui manifestaient devant Salle Pleyel et qui s'étaient couchés devant l'entrée, donc on ne pouvait pas rentrer. Et les gendarmes n'ont pas voulu, les déloger. Et donc, on est resté un grand nombre d'actionnaires dehors à attendre. On nous a annoncé que l'Assemblée Générale était annulée, mais en fait, j'ai assisté à toute l'Assemblée Générale sur mon téléphone portable en direct dans la rue, pour suivre l'Assemblée Générale dans la rue. Donc, je n'ai pas pu voter, mais 68% des actionnaires avaient quasiment, ou 80% des actionnaires avaient voté par correspondance, par anticipation, donc l'Assemblée Générale a pu se tenir.
Oui, on voit les images, du sitting devant la salle Pleyel dans le 8e arrondissement à Paris. Vous n'avez pas pu rentrer, donc, mais si vous étiez rentré, vous auriez voté pour ou contre?
Nous aurions voté pour la résolution sur le climat, après beaucoup de discussions avec Total, avec les dirigeants de Total, pour essayer de comprendre quelle était leur stratégie, leur évolution. Et on pense qu'il y a eu un tel changement depuis 3-4 ans sur leur positionnement, leur stratégie climat, qu'on ne peut pas en un an juger de la qualité ou de la pas qualité de la stratégie qu'ils mettent. Ne serait-ce que parce que tout le monde le reconnaît, on n'a pas aujourd'hui les outils pour qualifier la trajectoire climat d'ici 2030 et 2050 d'une entreprise comme Total Energy. Donc tout le monde souhaite qu'ils aillent beaucoup plus vite qu'ils ne le font. Ils ont mis en place un plan, une stratégie qu'ils ont expliqué en détail en répondant à toutes les questions qui fâchent. Monsieur Pouyanet répondait à toutes les questions qui fâchent. Mais c'est clair que nous n'avons pas aujourd'hui, en tant qu'actionnaire investisseur, tous les éléments pour dire est-ce que c'est la bonne trajectoire ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'ils investissent massivement dans le gaz naturel liquéfié, dans les énergies renouvelables, qu'ils continuent d'investir encore dans des forages pétroliers, d'où les, notamment en Ouganda et tout puis au Golfe du Mexique, d'où toute une série de contestations.
Ouais, ce matin.
Mais ils se défendent en disant nous investissons dans des projets qui vont nettement moins émetteurs de CO2 parce qu'il nous faut continuer à apporter du pétrole, notamment en Europe, parce que vous consommez, vous conduisez des voitures, vous prenez l'avion, vous prenez le transport, et que donc il y a besoin de continuer à quand même à apporter du pétrole pas trop cher aux Européens.
Oui, Patrick Pouyanné a expliqué ça effectivement pour l'Assemblée Générale. Il dit oui, on va accélérer sur l'énergie décarbonée, mais non, je ne crois pas à ce que dit l'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie, à savoir que la demande de pétrole et de gaz va reculer d'ici à 2030. Ça, le patron Total n'y croit pas.
Mais c'est clair qu'on est assez schizophrène, hein, parce qu'on est tous en train de vouloir que... Je dirais qu'ils arrêtent et qu'on n'ait pas de pétrole et qu'on passe tous à l'électrique, mais on est quand même tous en train de prendre notre voiture ce week-end pour le week-end de l'Ascension pour partir en week-end ou prendre l'avion pour partir je ne sais où. Donc on est assez schizophrène nous-mêmes dans nos comportements.
Ouais, intéressant.
Et donc c'est clair que tant que je dirais le pari de Total, alors nous ne sommes pas capables de juger si c'est le bon ou pas et de dire jusqu'en 2030 une augmentation de la consommation, de la demande de pétrole dans le monde entier et en Europe. Et après 2030, il y aura une forte baisse. Donc, ils ont basé toute leur stratégie là-dessus. C'est clair que nous, on leur avait demandé depuis 4 ans qu'il y a une organisation qui s'appelle le SBTI, Science Based Target Initiative, qui, dans toute une série de sociétés, maintenant, ou de secteurs, a pu déterminer des méthodologies pour déterminer les stratégies climat par rapport à l'accord de Paris. Mais c'est clair que la méthodologie n'a toujours pas été, officiellement validé pour qu'on puisse avoir une sorte de norme internationale pour dire telle société suit bien, telle société suit pas bien. Donc on est encore dans une sorte de flou.
Oui, autour des normes, des standards, c'est quand même assez terrible d'ailleurs qu'on puisse pas...
Voilà. Et c'est pour ça que nous on dit...
Suivre précisément comment on peut suivre les résultats d'une entreprise, suivre son bilan extra-financier.
Son bilan à 3 ans, 5 ans... Bah, alors ce qu'on dit Total pourrait mieux faire, c'est certain qu'il pourrait aller plus vite.
Et comme on ne peut pas mesurer...
Et comme on ne peut pas mesurer la trajectoire. Et puis aussi, on ne sait pas non plus comment ça va se passer parce qu'on ne connaît pas toutes les technologies, notamment toutes les technologies qui vont remplacer, je dirais, le pétrole et le gaz dans le futur. Donc il y a une vraie incertitude, je dirais, générale. Donc nous, on n'est pas en train de dire Total est très bien, on dit juste Total peut beaucoup mieux faire.
Vous leur donnez un peu le bénéfice du doute quelque part.
Exactement, parce que ce qu'on peut quand même leur donner le bénéfice du doute, nous on les connaît très bien parce qu'en 2012 on avait déposé une résolution sur les sables bitumineux au Canada qui ça avait été vraiment très très compliqué avec eux, ils avaient refusé notre résolution, il y avait tous les investisseurs s'en étaient mêlés, c'était très compliqué. Jusqu'en 2016 on avait un mur devant nous. Depuis 2017, ça a bougé. Et depuis 2 ans, on a vraiment des dirigeants qui, je pense, ont pris conscience de 3 sujets. Le premier, c'est que nos sociétés exigent une évolution forte. Le deuxième, qui n'est pas pris en compte, je pense, suffisamment par tout le monde, c'est que je pense que les jeunes ne veulent plus aller travailler dans des entreprises qui n'ont pas d'un sens et qui ne bougent pas rapidement par rapport au climat. Et Total a besoin de recruter, je pense, à ce truc. Et puis le troisième, qui est un point, je pense, très très important, c'est qu'ils ont investi quand même très significativement, notamment dans les énergies renouvelables,
et qu'on commence ils ont encore annoncé un investissement ce matin à 2,5 milliards.
Voilà, et qu'on va voir petit à petit, il a encore annoncé que en 2050, on aurait 50% d'énergie renouvelable électrique. Ça, c'est un groupe électrique. Et qu'il y aurait 20% encore de fossiles pétrole, avec à ce moment-là toutes sortes de technologies, depuis carbone, depuis de méthane. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Il faut dire pendant 2-3 ans, il faut leur donner le bénéfice du doute. C'est un peu ce qu'on pense. Bon. Et puis dans 2-3 ans, on verra bien s'ils ont réussi ou pas. Mais ce qu'on a constaté quand même dans l'Assemblée Générale cette année, c'est une très grande ouverture par rapport aux autres années. Des réponses aux questions qui fâchent. Avant, on n'y répondait pas tout à fait, on répondait à côté. En étant prêt à dire je ne suis pas d'accord avec votre interprétation. Donc on pense quand même qu'il y a quand même une très grosse évolution du conseil d'administration et de la direction générale du groupe pour prendre en compte et essayer de transformer Total. Parce que je pense qu'ils ont bien compris que s'ils ne le faisaient pas, dans quelques années, Total serait une toute petite compagnie.
Ouais, très intéressant votre analyse, Olivier de Guerre. Vous le disiez, 30% des actionnaires, quand même, ce matin, n'ont pas pu voter. Est-ce que pour vous
qui êtes... Alors, c'est pas 30%. Vous avez, je crois, 80 ou 85% des actionnaires qui ont voté par procuration.
Correspondance.
Enfin, par correspondance. C'est peut-être 5% qui n'ont pas pu voter. C'est petit, parce que tous les gros investisseurs institutionnels votent par avant. Donc, les petits actionnaires ne...
Donc, le fait que, par exemple, vous n'ayez pas pu rentrer comme plein d'autres actionnaires ce matin...
Ça n'aurait pas eu
d'impact. Pour vous, ça ne rend pas illégitime l'AG de ce matin?
Non, ça ne rend pas illégitime l'AG. Non, alors, ça, c'est la question qu'on peut
poser. C'est quand même un problème de démocratie, quelque part, de gouvernance d'entreprise, non? Le fait que les actionnaires qui veuillent aller voter puissent pas aller voter.
Disons que le paradoxe, c'est que je comprends très bien toutes ces ONG qui disent il y a un problème et qui essayent de faire du bruit pour que l'on réagisse et que les actionnaires votent contre la société, mais ils ont empêché les actionnaires de rentrer dans l'Assemblée Générale. Donc c'est un peu le paradoxe de la chose.
Fait que tout le monde puisse pas aller voter, est-ce que ça pose pas un problème de démocratie en entreprise?
A priori, ça pose un problème. A priori, on pouvait voter par avance je dirais par Internet, en tout cas par avance, notamment par via les CM qui existent maintenant. L'Assemblée Générale s'est retransmise en direct. Donc moi, je l'ai suivi dans la rue, comme si j'étais dans l'Assemblée Générale. Alors, je n'ai pas pu poser la question, mais...
Oui, mais vous n'avez pas pu voter.
Mais vous avez un investisseur, gros investisseur, qui devait parler en Assemblée Générale pour interpeller qui l'a fait par Internet, depuis la rue. Donc, je dirais, c'est malheureux qu'on n'ait pas pu rentrer, mais je ne pense pas que ça... qu'on puisse dire que l'Assemblée Générale n'était pas valable.
Bon, point de vue intéressant aussi. Quand vous voyez ce qui s'est passé ce matin chez Total, hier chez Shell, là c'était à Londres, Assemblée Générale interrompue pendant 2 heures. La police a dû expulser 40 personnes, 40 militants, idem pour les mêmes motifs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que quand même ça ne traduit pas une forme de contestation autour de la gouvernance des entreprises aujourd'hui ?
On l'a eu chez BNP Paribas, où pendant l'Assemblée Générale, vous avez eu des petits bruits pendant toute l'Assemblée Générale qui étaient sous les fauteuils, qui, dès qu'ils parlaient, ce qui fait que l'Assemblée Générale était inaudible.
Les banques aussi sont très contestées pour le greenwashing.
Moi, je pense que...
Mais qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ?
Moi, ce qui m'inspire, c'est que nous, on voit bien, on est un petit actionnaire de Total, on voit bien depuis 15 ans que nous faisons de l'interpellation des dirigeants de Total et des autres sociétés du CAC 40 sur des sujets comme ces sujets climatiques environnementaux. En parlant, en ayant des arguments, ils finissent par écouter. Et ils écoutent. Donc je pense que c'est très bien que des ONG nous interpellent et soulèvent des sujets que tout le monde n'a pas vu. C'est un peu comme le dossier qu'on vous remet sur le pile de dossier parce que vous ne l'avez pas vu, parce que vous ne l'avez pas étudié. Mais derrière, je pense qu'une Assemblée Générale doit être un endroit où tout le monde s'exprime, y compris les ONG s'ils sont actionnaires, les salariés. Mais ce n'est pas un lieu de revendication. Et je pense que c'est une erreur de transformer une Assemblée Générale en revendication parce que les actionnaires sont capables d'écouter même les choses les plus contraires à ce qu'ils pensent. Mmh. Et je pense qu'il faut que dans ces assemblées, il y ait une démocratie, les gens s'expriment, et puis que les gens votent. Et puis que la majorité des votes, les gens s'expriment. Et on l'a bien vu, si vous prenez un certain nombre de cas récemment, on l'a vu chez Stellantis, on a parlé de la rémunération du dirigeant. Ah
bah c'est vous, les premiers qui êtes sortis là-dessus. Emmanuel Macron lui-même, pendant la campagne, a dit que c'était excessif.
Les actionnaires se sont prononcés. Donc on voit bien que les actionnaires sont capables d'entendre.
Ils entendent, ils se prononcent, mais à la fin, ça ne change rien, le vote est consultatif.
Alors oui et non, parce que on avait un cas historique, c'était M. Carlos Ghosn chez Renault, ça s'était passé, le conseil d'administration n'avait pas écouté, et finalement, l'État a changé la loi.
Oui, en l'occurrence, Stellantis était aux Pays-Bas.
Je pense que, malgré tout, les actionnaires, les dirigeants écoutent, les conseils d'administration écoutent, pour simple raison toute bête, c'est qu'ils sont élus par les actionnaires. Et si vous avez des conseils d'administration qui, d'une manière ou d'une autre, refusent et n'écoutent pas, la prochaine fois qu'ils seront ils seront pas réélus. Donc je pense qu'ils savent très bien. Le sujet de Total est un sujet un peu, et des compagnies pétrolières est un sujet pétrolier. Historiquement, les compagnies pétrolières ont toujours été un peu des bunkers. Parce qu'à cause de la sécurité dans les champs pétroliers, de tout ça, des bunkers. Donc les actionnaires étaient vus aussi comme une sorte une agression externe. Je crois qu'il y a un énorme changement de culture des 6 dernières années et que maintenant les compagnies pétrolières ont compris que les actionnaires, c'était eux qui les élisaient, qu'on pouvait les écouter, qu'elles pouvaient les amener vers de nouvelles stratégies intelligentes. Donc je pense qu'il y a une vraie évolution de toutes les entreprises aujourd'hui qui prennent sur la démocratie actionnariale. Il faut faire attention que ça ne devienne pas une foire d'empoigne. Parce que sinon, on va se retrouver avec des assemblées virtuelles comme chez Stellantis, où à ce moment-là, toutes les questions sont filtrées et on ne peut pas poser les bonnes questions. Ou comme Lagardère, il y a 2 ans, pendant le plein Covid.
On voit très bien, on a beaucoup parlé.
Nous, on serait plutôt en train de dire, ne transformons pas les assemblées générales en foire d'empoigne, mais un endroit de dialogue, et que les dirigeants écoutent, et que les ONG fassent leur travail de devoir d'alerte, et que les actionnaires fassent leur travail aussi d'intervention. Ce que font toute une série d'actionnaires aujourd'hui de Total, de dire aux dirigeants de Total, qu'est-ce que vous faites dans tel ou tel cas.
Et alors effectivement, vous vous êtes fait remarquer il y a quelques semaines avec l'Assemblée Générale de Stellantis et la rémunération de 66 millions d'euros de Carlos Tavares, qui est quand même passé, donc malgré le vote contre à 52%, mais encore une fois, c'est le droit néerlandais qui prévaut, donc c'est passé, on verra l'année prochaine. Chez Danone aussi, vous êtes fait remarquer avec une résolution que vous avez déposée sur le rôle précis du président d'honneur Franck Riboud. Quelles sont les autres sociétés que vous avez dans votre viseur ? Parce que je disais, vous êtes dans toutes les boîtes du CAC 40, chez Orange, Société Générale, Saint-Gobain, vous êtes partout.
On est un fonds qui reproduit l'indice CAC 40.
Oui, voilà, un ETF.
Qui surpondère les entreprises qui écoutent leurs actionnaires de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et qui sous-pondère les autres. Donc effectivement, on est toujours dans les... Parce qu'on considère que notre rôle, pour rebondir un peu sur ce que disait Marc Daniel après, on considère que notre rôle d'actionnaire n'est pas de vendre si on n'est pas d'accord. C'est d'abord d'aller discuter avec le dirigeant, et puis si le dirigeant écoute, on lui fait confiance. S'il n'écoute pas du tout, on le sous-pondère, mais on continue parce qu'un jour il changera et un jour il écoutera. Et on s'aperçoit, on fait ça depuis 2003, que finalement la plupart des dirigeants écoutent. Alors, il y a toujours quelques irréductibles. Donc, mais pour répondre à votre question, je pense que le vrai sujet que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une directive droit des actionnaires européenne d'il y a 3 ans, qui oblige tous les investisseurs institutionnels à faire de l'engagement actionnarial. Ça veut dire que tout actionnaire institutionnel aujourd'hui, compagnie d'assurance, gestionnaire d'actifs, etc., doit tous les ans montrer à ses investisseurs qu'il est dans telle ou telle société et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il a fait quelque chose pour que l'entreprise change. Et ça, ça va changer radicalement le rôle des actionnaires dans les années à venir. On va avoir de plus en plus de cas où les actionnaires vont interpeller les dirigeants, vont déposer des résolutions. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour notre économie et nos sociétés.
Bon. La démocratie se développe en entreprise.
Je pense qu'elle va se développer.
Merci infiniment Olivier Degarde d'avoir été notre invité ce soir, président de Fitrust après l'Assemblée Générale de Total Energy. Vraiment décryptage très intéressant de tout ce qui se passe dans ces grands groupes et dans leur relation aux actionnaires et à leurs parties prenantes. Merci. Et votre interview évidemment à retrouver d'ores et déjà en ligne sur notre site, les réseaux sociaux et en podcast. Bientôt 19h sur BFM Business, on marque une pause dans un instant. Un nouveau point sur l'actu avec Faiza Younsi et puis je serai avec Jean-Marc Chéry, lui aussi, tiens, à ce micro, tenait son Assemblée Générale aujourd'hui. Ça se passe c'est aussi Amsterdam, mais bon, là, visiblement, ça n'a pas fait trop de vagues. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
Allez, la suite du grand journal, troisième invité ce soir dans mon émission, et c'est le directeur général d'ST Micro Electronics qui est en direct et en visio avec nous de Genève. Bonsoir, Jean-Marc Chéry.
Bonsoir Monsieur De Portas.
Merci d'être avec nous parce que c'était aussi l'Assemblée Générale de votre entreprise aujourd'hui. On a parlé de celle de Total Energy, celle de Renault. Je vous demanderai votre avis évidemment sur ce qui s'est passé du côté de chez Total à Paris. Chez vous, chez ST Micro, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des tensions aussi? Ça s'est passé à Amsterdam d'ailleurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu des actionnaires présents sur place? Est-ce que tout était en ligne? Comment s'est passé votre AG?
Ben écoutez, oui, il y a eu quelques actionnaires. Écoutez, toutes les résolutions ont été adoptées entre 96% et 99+%. Moi j'ai eu l'opportunité de rappeler nos résultats de 2021, nos indications pour l'année, et puis surtout j'ai rappelé les ambitions pour les 5 ans qui viennent. Je pense que l'ensemble des actionnaires ou de ce qu'on appelle ceux qui ont intérêt dans la société était bien aligné, donc le vote est cohérent avec ça.
D'accord. Quand vous dites quelques actionnaires sur place, ça veut dire que l'AG s'est déroulée essentiellement en ligne ?
Non, elle était en présentiel. Effectivement, on laisse le choix aux actionnaires d'être présents ou pas. Et cette année, il y avait pratiquement pas d'actionnaires présents, mais ils ont voté tous massivement.
D'accord. Et quelles étaient les directives, les enjeux, les résolutions, pardon, je cherchais le mot, à enjeu cette année. Enfin, est-ce qu'il y en avait d'ailleurs? C'était peut-être une AG sans enjeu fort pour votre groupe.
L'enjeu m'a toujours, j'ai un peu critique, c'est voter la rémunération du dirigeant. Donc, qui a été faite à plus de 96%.
D'accord.
L'année dernière, oui, c'était assez critique parce que, effectivement, la politique globale de rémunération du directeur général et du président du directoire donc avait été complètement refaite, et elle a été aussi votée l'année dernière donc à plus de 95%. Donc il y avait pas vraiment d'enjeu très très critique.
Et alors, chez vous, ça s'est passé sans encombre. C'est pas vraiment ce qui s'est passé du côté de chez Total Energy, même si à la fin, la résolution climat est passée à 89%. Qu'est-ce que ça vous inspire quand même? Des tensions pareilles devant une assemblée générale de grands groupes comme le vôtre, des actionnaires qui peuvent pas aller voter. Est-ce que ça traduit quand même une forme, je sais pas, de gouvernance des grands groupes qui est peut-être à bout de souffle ou des choses à revoir dans la gouvernance des grands groupes?
Écoutez, moi je vais parler de ST. Nous on a une gouvernance avec un conseil de surveillance, un directoire et un comité exécutif. Chacun doit suivre des règles et des chartes qui sont très claires. Maintenant, en tant que directeur général et président du directoire, moi je considère que mon premier devoir, effectivement, entre guillemets, d'aligner clairement les actionnaires, mais tous les stakeholders, sur la proposition de valeur de la compagnie, sur son modèle de croissance, sur son modèle opérationnel, qui n'a pas toujours été évident, le modèle intégré avec des usines, notre modèle financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va créer comme valeur, je dirais, à la fin. Et ça, je considère que que je me dois d'aligner tout le monde sur ce sujet et donc d'être transparent. Bon, puis après, effectivement, il y a des règles précises de gouvernement. Il y a l'ESG, hein, donc tout ce qui est environnemental, social et de gouvernance. Donc d'avoir la transparence suffisante. Bon, on avait reçu, par exemple, des feedbacks qui étaient avec des opportunités d'amélioration sur la transparence, notamment du rapport de rémunération du dirigeant. C'est ce qu'on a fait. Et bon, cette année, donc ça s'est transformé avec un vote assez massif. Donc je crois que bon, voilà, on a des gouvernances qui sont claires, qui sont expliquées, et puis bon, on a des processus de communication qui sont répétitifs. Donc chaque trimestre, donc on vient communiquer effectivement nos résultats, on communique notre guidance, mais une fois par an, à ce qu'on appelle la journée des investisseurs et des analystes, on communique effectivement nos ambitions, moyen terme et long terme. Moi, je communique très régulièrement aux représentants syndicaux, donc au niveau européen. Je vais voir assez souvent les médias, comme vous, ou offline, pour expliquer la compagnie. Je pense qu'il faut donner effectivement l'opportunité, à tous ceux qui ont intérêt dans la société à s'exprimer. Bon, maintenant, sur la forme et sur la violence, en tant qu'individu, je pense que je n'apprécie pas trop, quoi.
Bon, merci en tout cas pour votre réaction sur cette saison des assemblées générales qui posent des vrais sujets de fonctionnement des entreprises, de leur performance et de la démocratie avec toutes les parties prenantes. On en parlait il y a encore quelques minutes avec le président du fonds FITRE. Jean-Marc Chéry, votre grosse actualité, vous parliez de la journée investisseur qui est l'un des moments effectivement où vous vous adressez à vos parties prenantes justement. Ça, c'est votre grosse actualité puisqu'il y a 15 jours, vous avez présenté votre nouvelle feuille de route. Vous voulez faire d'STMicro une entreprise à plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et marge d'exploitation supérieure à 30%. Ces objectifs-là, Jean-Marc Chéry, est-ce que ce sont des objectifs, on va dire, moyens ou est-ce que vous aurez du mal à les atteindre ou est-ce qu'au vu de la trajectoire des derniers résultats, vous avez publié ceux du premier trimestre de cette année, vous vous dites finalement c'est prudent et on pourra assez facilement faire mieux?
Non, mais tout d'abord, c'est des objectifs qui sont encore une fois cohérents avec les points clés de la stratégie globale de la société. Encore une fois, c'est proposition de valeur, croissance organique, modèle opérationnel. Bien sûr, on tient en compte les facteurs macroéconomiques et les risques géopolitiques, c'est clair. Mais bon, aujourd'hui, on considère que donner cette feuille de route, cette ligne directrice, cette ambition au marché et en donnant clairement les indicateurs clés, c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement confiant et déterminé, à agir. Bon, maintenant, vous avez vu, on s'est donné la seule flexibilité qu'on s'est donnée, c'est une marge sur le temps.
Oui.
On a dit qu'on atteindrait ces objectifs entre 2025 et 2027. Bon, voilà pourquoi on s'est donné une marge sur le temps, parce que il y a effectivement les variables intrinsèques de la compagnie que l'on maîtrise, notre stratégie marché, clients, etc., que l'on maîtrise, puis il y a des variables extrinsèques qu'on ne maîtrise pas. Les contextes géopolitiques sont difficiles à maîtriser. On n'est pas complètement sorti du Covid. J'en suis le bon exemple, d'ailleurs.
Ouais. Et, oui, vous deviez être en plateau et malheureusement, vous avez attrapé le Covid. Voilà.
En Chine, il y a eu des mesures de confinement qui restent qui pèsent effectivement sur l'économie. Donc, on s'est donné une marge en termes de timing sur l'exécution, mais sur les fondamentaux et la création de valeur, on est extrêmement confiant et déterminé.
Et alors, comment vous allez faire pour atteindre ces objectifs-là qui sont effectivement assez ambitieux? Ça va passer par des rachats, de la croissance externe, ça va passer par de l'organique, par des investissements. Quels sont vos moyens?
Non, on est très très clair sur ce sujet. C'est de la croissance organique. Pourquoi? Parce que on est confiant d'être positionné sur les bons marchés et sur les applications de forte croissance. On s'interdit pas de faire des acquisitions rapides, précises. C'est-à-dire qu'on est fondamentalement convaincu que l'innovation existe aussi ailleurs que dans la société. Donc de temps en temps, on est toujours à la recherche effectivement de de pépites ou d'innovations externes et leur proposer de venir intégrer la société. Donc on s'interdit pas de faire ce type d'acquisition. On l'a fait pour à peu près 300 millions de dollars d'acquisition dans les trois dernières années.
D'acquisition d'entreprises qui ont votre taille.
Non. On est convaincu que la croissance organique, parce qu'on est sur les bons marchés, parce qu'on a le bon modèle opérationnel, parce qu'on investit en recherche et développement et innovation, et que le management est focalisé sur ses objectifs, que la croissance organique est le bon moyen d'atteindre ces 20 milliards de dollars de revenus, voire plus.
Et donc, vous allez investir combien concrètement dans les prochaines années ? Dans quel pays ? Pourquoi faire ? C'est quoi votre tableau de chasse d'investissement ?
Aujourd'hui, en termes d'investissement productif, on va investir entre 3,4 milliards et 3,5 milliards. En termes d'acquisition externe, on s'interdira pas à faire entre 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars d'investissement, si s'avérait que c'était nécessaire.
Dans l'actualité, on a l'Espagne qui a annoncé, vous avez dû le voir, un plan d'attractivité à 12 milliards d'euros pour attirer des investissements dans les puces et les semi-conducteurs sur son territoire. Ça peut vous intéresser, ça, Jean-Marc Chéry ? L'Espagne, c'est un pays en Europe que vous regardez pour investir ?
De toute façon, déjà, c'est un pays qu'on respecte énormément pour sa culture et son savoir. Mmh. Écoutez, en termes d'investissement industriel, je vais être clair, la réponse est non. Notre stratégie d'investissement industriel est de croître à partir des écosystèmes sur lesquels nous sommes présents, à savoir la France, l'Italie et donc les Milan, Grenoble, Aix-en-Provence, Catagne. Donc ça, c'est et l'Asie comme Singapour. Donc ça, c'est le point numéro un. Maintenant, on peut être effectivement intéressé d'ouvrir des centres de conception. Ce qu'on appelle des design centers en Espagne, ça, on est tout à fait ouvert à ça parce que je pense que les talents sont rares et il faut qu'on ouvre notre recherche de talents au niveau européen et on est tout à fait ouvert à discuter avec l'Espagne sur ce type de centre de recherche et de conception.
Comme va le faire un certain Intel en France, c'est ce qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines. Ils vont ouvrir une usine avec des subventions européennes dans le cadre du Chips Act de Thierry Breton, donc des usines en Allemagne, mais un centre de R&D, de développement en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan, Jean-Marc Chéry ? Parce qu'au final, un de vos concurrents va grandir en Europe avec des subventions européennes.
De toute façon, nous, on est extrêmement favorable à ce plan, ce European Chips Act. Encore une fois, Intel, on n'est pas concurrent frontal avec Intel, puisqu'ils adressent surtout le marché des microprocesseurs, donc des serveurs, des ordinateurs. Et nous, on adresse surtout les marchés de ce qu'on appelle l'électronique embarquée, donc l'automobile, le secteur industriel, d'ailleurs, sur lequel l'Europe, je dirais, est forte. Donc on a une très bonne adéquation avec l'Europe et notre positionnement stratégique. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces grands projets, effectivement, d'aide ou d'incitation au niveau mondial, il est souhaitable qu'ils soient équilibrés, de telle façon que il n'y a pas de distorsion de la compétition, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on passe d'un modèle qui était global, libéral, à un modèle découplé, siloté et administré. Donc il est souhaitable que les grands équilibres soient conservés, et de telle façon qu'il n'y ait pas de distorsion de compétition, je dirais, au niveau mondial.
Vous, ST Microelectronics, vous allez toucher combien d'argent avec le Chips Act ?
Si vous voulez, le Chips Act aujourd'hui est en cours de finalisation en termes de spécifications pour pouvoir clairement donner la boîte à outils aux décideurs, soit les États, soit l'Union européenne, notamment la direction de la compétition, sur ce qui est éligible ou pas à ce type de European Chips Act. Donc, c'est pas encore complètement finalisé. Donc, c'est en train d'être discuté. Par contre, il y a des programmes qui sont des projets qui étaient en cours, ce qu'on appelait les programmes d'intérêt commun européen.
Les PIEC.
Les PIEC, sur lesquels ST, effectivement, a participé et a reçu, je dirais, des aides, notamment par la France, sur des efforts de recherche et développement technologique.
Combien, à ce stade ?
Et aussi en Italie. Si vous voulez, ce qu'on communique, c'est à peu près, je dirais, par trimestre, on a de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars, globalement, d'aide sur l'Europe, sur les deux pays, France et Italie.
D'accord. Bon, c'est pas négligeable, mais c'est peut-être pas suffisant quand on voit, toujours dans l'actu, Samsung qui a annoncé il y a quelques heures investir dans les prochaines années 330 milliards d'euros pour devenir et pour rester un mastodonte des puces. Comment est-ce qu'on fait pour... Alors, je sais que vous ne faites pas exactement les mêmes puces, mais enfin, quand même, comment est-ce qu'on fait pour répondre à des offensives pareilles, Jean-Marc Chéry?
Bah, écoutez, nous, la seule réponse que je peux vous faire, c'est qu'on investira de façon cohérente avec nos objectifs, je dirais, de 20 milliards et plus à atteindre sur l'année 2025 et 2027. Donc on investira pour pouvoir aussi générer, je dirais, le free cash flow qui est nécessaire pour pouvoir faire cela. Donc encore une fois, Samsung fait des mémoires. Le modèle d'investissement pour ce type de produit, c'est quasiment pour croître d'un euro, il faut investir 2 euros. Bon, nous, on est plutôt dans des modèles 1 euro de croissance de revenus. Donc on est dans des lignes de nage qui sont totalement différentes et Samsung n'est absolument pas un concurrent. Ceux qui sont nos concurrents, c'est les Européens comme Infineon. C'est des sociétés mondiales type NXP, type Texas Instruments. Bon, voilà, là, on est sur des modèles opérationnels qui sont un peu différents. C'est-à-dire, nous, on a plus d'usines qu'eux. On a des niveaux d'investissement qui sont tout à fait, je dirais, cohérents et en ligne avec nos ambitions de croissance.
Et donc, vous nous l'avez dit, vous n'allez pas racheter l'allemand Infineon. Toute dernière question, il nous reste 30 secondes. Jean-Marc Chéry, tout le monde investit à tour de bras dans votre filière. Vous craignez pas que dans quelques années, on se retrouve avec des surcapacités énormes dans les puces et les semi-conducteurs? Là, aujourd'hui, il y a des grosses pénuries. Peut-être que dans quelques années, on va être en surcapacité?
Bah, si vous voulez, déjà, il y a une différence importante entre parler et faire. Ça, c'est le point numéro un. Ensuite, le point numéro deux, c'est il faut bien comprendre que la chaîne en amont, c'est-à-dire ce qui sert à construire des usines, elle aussi est sous tension et ne sait pas, ne saura pas dans les années qui viennent, je dirais, faire toutes ces usines qui sont annoncées. Donc, ça mettra beaucoup plus de temps que prévu. C'est la raison pour laquelle, pour certains types de composants, dont les nôtres et ou ceux de nos compétiteurs, je dirais la ce qu'on appelle le shortage, donc la pénurie de composants, va durer au moins jusqu'à second semestre 2023, voire 2024. Wow. Donc tout ça, ça prendra beaucoup de temps, effectivement. Et voilà, une usine de semi-conducteurs, ça se monte pas en 2 ans. Et qui plus est, il faut les compétences. Et encore une fois, ce sont les gens qui travaillent dans les usines sont des gens extrêmement compétents, des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, et ça ne se trouve pas comme ça du jour au lendemain. D'où la stratégie de ST de croître à partir de nos écosystèmes existants pour pouvoir accueillir et former des nouveaux venus qui ne viennent pas de notre industrie, mais sur une base existante. Partir de nulle part, je peux vous dire que c'est un sacré challenge, voire impossible à réaliser.
Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Jean-Marc Théry, directeur général d'ST Micro, d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal. On termine avec ce petit bémol, hein, quand même, cette pénurie de puces qui n'en finit pas. Vous nous dites fin 2023, voire 2024. Espérons que l'histoire vous donne tort, peut-être. En tout cas, les constructeurs automobiles l'espèrent. Ils les attendent, ces puces. Merci beaucoup. Et je rappelle que votre interview est à retrouver en ligne sur nos réseaux sociaux et en podcast. 19h30 passé, on a pris un peu de retard, mais c'était passionnant. C'est pour ça qu'on vous a gardé une ou deux minutes de plus que prévu. Tout de suite, le journal de Claire Sergent. Et dans un instant, c'est Yves Verrier, le futur ex-patron de Force Ouvrière, qui est mon invité. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
Dernière partie du Grand Journal et nous sommes avec le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Yves Verrier, merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal. Vous avez passé la journée avec le nouveau gouvernement. Vous étiez, vous me disiez, avec les figures de ce nouveau gouvernement. Vous étiez avec la Première Ministre à la mi-journée et puis là, cet après-midi, avec le nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt. Justement, c'est ma première question. Ce nouveau casting, avant de parler du fond et des réformes, ce nouveau casting promet une rupture sur la forme. Est-ce que vous la sentez, cette rupture? Elisabeth Borne parle de concertation, de co-construction avec les partenaires sociaux. Olivier Dussopt a dit ça aussi au moment de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne. Vous l'avez ressenti aujourd'hui?
Alors, on va voir, parce que on est quand même dans la période de la campagne pour les élections législatives. Donc là, c'était une première rencontre, un premier échange qui n'est pas conclusif, hein, puisqu'il y a peu d'espace dans l'immédiat pour le gouvernement pour prendre des décisions et a fortiori les annoncer. Ce que j'ai souligné de positif, c'est que le sujet pour moi du changement de méthode, il est qu'on ait de vrais échanges, une considération, je l'ai dit, des interlocuteurs sociaux, donc des syndicats d'une part, des organisations d'employeurs d'autre part. J'étais pas content du démarrage, je l'ai dit, lorsque le ministre de l'économie et des finances a annoncé sur l'urgence du pouvoir d'achat qu'il allait réunir tout de suite les acteurs économiques, sauf que les acteurs économiques, c'était essentiellement les employeurs.
Oui, mais alors, mais Laurent Berger a été reçu aujourd'hui par Bruno Le Maire.
Oui, mais bon, parce que...
Vous, d'ailleurs, peut-être vous avez rendez-vous aussi avec Bruno Le Maire.
Ça va venir, parce que j'ai
fait remarquer... Vous l'avez pas encore ?
Pas encore, on est dans la période, on entre dans la période de réserve, donc le temps que les agendas se calent, etc. Bon, puis moi j'ai mon congrès la semaine prochaine, donc voilà. Mais cela étant, j'ai insisté là-dessus, et c'est moi qui j'ai eu un échange téléphonique avec la Première ministre dimanche dernier, et je lui avais fait part de mon mécontentement. Donc je pense que la Première ministre, justement, elle est chef du gouvernement, a fait en sorte... qu'on accélère les rendez-vous, qu'on puisse voir le ministre du Travail. J'avais dit que le ministère du Travail est celui, justement, du dialogue avec les interlocuteurs sociaux. Donc, il faut en faire la démonstration très vite.
Mais c'est ce qu'ils vous promettent. Mais alors, justement, vous connaissez ces ministres. Ils étaient là, déjà, dans le premier quinquennat. Est-ce que vous trouvez qu'Elisabeth Borne et Olivier Dussopt vous parlent différemment qu'il y a quelques semaines, à la fin du premier quinquennat ? Ou est-ce que c'est la même équipe et la même chose ?
Madame Borne, là, pour le coup, je l'ai beaucoup rencontrée.
Ben oui, voilà.
Particulièrement dans la période de la pandémie où on avait une réunion quasiment chaque semaine. J'avais fait remarquer qu'elle présidait systématiquement ces réunions qui pourtant étaient parfois sur des aspects très techniques. Et elle aurait pu déléguer à ses conseillers. Non, elle a pris le soin à chaque fois de présider. Ce que je lui ai dit tout à l'heure à nouveau, vous parliez de concertation, de co-construction, etc. Nous, on n'est pas des co-constructeurs. Et j'ai fait remarquer que le problème de la concertation, c'est que le terme même de concertation était devenu péjoratif pour un certain nombre de syndicalistes, de syndicats, pour une simple raison qui est qu'on a parfois eu le sentiment... que la décision était prise et que la concertation n'avait d'autre objectif que de nous informer de la décision et éventuellement de nous proposer de participer à sa mise en œuvre. Mais on pouvait ne pas être d'accord avec la décision prise au départ. Et c'était vrai, je l'ai dit, je l'ai rappelé, parce que ça reste un os pour nous, un problème majeur, un caillou dans le soulier si on veut. Les ordonnances, il faut revenir sur les dispositions des ordonnances travail qui ont affaibli la capacité justement d'une représentation efficace des salariés dans les branches, dans les entreprises. D'autre part, on a un vrai sujet, j'ai dit, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est la décision, semble-t-il, prise par le président de la République de vouloir reculer l'âge de départ à la retraite.
Oui.
Or, le problème, c'est que c'est au milieu de la porcelaine de tous les dossiers qui sont effectivement des dossiers sensibles.
Ouais.
L'emploi, je viens d'en parler, oui, tout à fait. Chiffres.
Le chômage qui remonte un petit peu.
On voit bien que le rebond de l'activité et de l'emploi, ça commence à se stabiliser. On a un gros point d'interrogation avec les effets de la crise liée à la guerre en Ukraine, les effets de la pandémie en Chine qui a un impact sur les échanges économiques, les échanges mondiaux. Donc on a une grosse interrogation sur l'emploi.
Vous commencez à vous inquiéter sur le front de l'emploi. Là, effectivement, Pôle emploi, à la mi-journée, dit le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 9300 personnes. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est la marge d'erreur d'un point de vue statistique, mais c'est la première fois depuis un an.
Oui,
pour vous,
part,
ça, c'est le signe que le marché du travail est en train de se retourner ? Ou vous dites, là, non, c'est trop tôt pour interpréter ?
Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une stabilisation quand même de ce rebond économique. Il ne faut pas oublier qu'on était dans un rebond après une décélération forte pendant la pandémie.
Enfin, le rebond a été très fort. On a un taux de chômage là qui est au plus bas depuis 15 ans quasiment, depuis début 2008.
On a toujours... un nombre de demandeurs d'emploi qui reste à des niveaux records. Le taux de chômage mesuré au sens du BIT, c'est la catégorie A. C'est-à-dire que maintenant, et c'est bien le problème, c'est le désaccord que j'ai d'ailleurs avec le président de la République y compris, quand il parle de plein emploi, j'aimerais qu'on clarifie ce qu'on entend par plein emploi. Parce que tous les demandeurs d'emploi, parce qu'ils sont demandeurs d'emploi en catégorie B, en catégorie C,
activité
ils ont
réduite.
Un emploi en activité réduite, c'est-à-dire un temps partiel, un CDD ou autre.
Bah, c'est toujours mieux de ne pas avoir d'emploi.
Bien sûr, mais ils sont inscrits à Pôle emploi parce qu'ils demandent un vrai travail. Un travail à temps complet, pérenne, susceptible de mieux vivre.
Oui, mais après ça, les gens sortent de Pôle emploi. Si
mais
on fait
non,
A, B, C, à la fin, non ? Souvent,
il y a automatique, beaucoup de demandeurs d'emploi
Il y a beaucoup
qui
de sorties de Pôle emploi.
Aussi ne sont pas dans les chiffres de Pôle emploi. On
a
beaucoup radié de demandeurs d'emploi. Donc, le plein emploi, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on entend par là. Et je ne suis pas sûr qu'on entende la même chose. Parce que mesuré au sens du BIT ou de l'OIT, les chiffres de l'INSEE, le taux d'emploi correspond plutôt à celui de la catégorie A seulement et il ne prend pas en compte ce qu'on appelle le halo du chômage. Donc, tous ceux qui, justement, ne sont ni en emploi, ni considérés comme au chômage, en activité, et qui sont dans cette interzone. Donc, aujourd'hui, on reste avec catégorie A, B et C à plus de 5 millions de demandeurs d'emploi, 5 500 000. C'est plus important qu'en 2008, nettement, nettement. Donc, la situation, elle n'est quand même pas des meilleures. Et si on a une...
Ah ben ça, le gouvernement n'a jamais dit le contraire. Et il fixe justement à Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail, l'objectif d'atteindre ce fameux plein emploi.
Oui, mais encore
Est-ce que vous y croyez, vous, qu'il sortait de son bureau, justement?
C'est pas la question de croire ou de ne pas croire, c'est qu'est-ce qu'on entend par plein emploi.
Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous vous dites...
C'est qu'est-ce qu'on entend par plein emploi. Et justement, c'est un dossier sensible parce qu'il est très directement lié à celui de la retraite. Ce que nous, nous disons, c'est que nous sommes opposés au recul de l'âge de départ à la retraite. Ça, je lui ai redit. Et pour une raison simple, c'est que pour nous, la solution, elle passe par la garantie d'un emploi pérenne à temps plein dès l'entrée dans la vie active, pour les jeunes en particulier, donc jusqu'au moment de pouvoir partir à la retraite. On l'a suffisamment dit cet an dernier, un salarié sur deux, quand il liquide sa retraite, il n'est plus en emploi ou il n'est pas en emploi. Donc, plutôt que de commencer par dire que ceux qui sont encore en emploi, qui d'une certaine manière ont encore la chance d'avoir un boulot au moment de pouvoir partir à la retraite, leur dire à ceux-là, vous allez devoir continuer. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils ne pourront pas continuer parce que c'est des travaux pénibles, difficiles. Donc, ils vont basculer soit dans l'incapacité, l'invalidité, dans le chômage éventuellement. Et surtout, pour ceux qui sont déjà plus en emploi, on va réduire encore le droit à la retraite puisqu'il va falloir qu'ils attendent 2-3 ans de plus pour pouvoir faire valoir leur droit à la retraite. Ils vont subir une décote supplémentaire. Donc, avant et plus tôt, et nous sommes contre ce recul de l'âge de départ, il faut garantir de l'emploi pour tous, sortir aussi tous ceux, c'est plus tous, plus souvent des femmes, qui sont sur des emplois confinés au SMIC, à temps partiel, donc qui auront du mal à se faire une retraite à l'âge où on a envie de partir à la retraite, qui devront attendre pour se faire une retraite à taux plein, les sortir de ces emplois, revaloriser tous ces emplois, justement, plutôt que de nous dire on va reculer l'âge de départ à la retraite, et puis oui, il faudra s'occuper de l'emploi des seniors. C'est ce que nous dit le gouvernement, ce que nous disent les employeurs. Ben, commencez par vous employer de l'emploi des seniors, parce qu'on a connu dans le passé le raisonnement. On a reculé l'âge de départ à la retraite à 62 ans, on a allongé la durée de cotisation, on nous disait déjà à l'époque, oui, oui, il faudra améliorer l'emploi des seniors, sauf que on est toujours dans la même situation sur le taux d'emploi des seniors ou l'emploi des jeunes.
Bon, vous voyez quand même que le gouvernement fait monter une petite musique qui vous est un peu favorable. Hier, Elisabeth Borne dit, enfin c'était dans le JDD, pardon, dimanche, elle dit, la retraite à 65 ans, ce n'est pas un totem. Hier, Olivier Dussopt, chez nos confrères de RTL, dit, finalement les concertations, ça va pas être là tout de suite maintenant au mois de juin, mais plutôt en septembre-octobre. On voit bien quand même qu'ils sont peut-être un peu moins dirigistes ou arc-boutés qu'ils ne l'étaient lors de la précédente réforme. Peut-être que vous allez avoir des concessions, trouver... vous ne voulez pas parler de co-construction, mais c'est peut-être comme ça finalement que ça va se passer, non? Ils ont l'air là de vous tendre un peu des perches.
Ouais, ben, vous avez compris que nous ne sommes pas les seuls. J'entends des voix diverses, pas forcément syndicalistes, loin s'en faut, des économistes, qui disent, compte tenu de la situation économique, c'est sûrement pas l'urgence de mettre ce dossier des retraites qui va créer des tensions et qui ne va pas faciliter la solution ou les résolutions des difficultés qu'on peut rencontrer sur le plan économique et par voie de conséquence sur l'emploi. Et puis il y a un sujet immédiat qui est le pouvoir d'achat. Alors là-dessus, on a demandé des précisions, notamment pour les pensions. On a demandé.
Non, mais alors déjà, le projet de loi pouvoir d'achat, parce qu'on ne comprend plus vraiment grand-chose au calendrier.
Alors, attendez, d'abord les pensions.
Ah, ben non, mais ça, c'est important.
On a une information dessus. Ah. Sur la revalorisation des pensions, on a demandé si ce serait plafonné. Est-ce que c'est tous les pensionnés qui vont bénéficier du rattrapage de l'inflation, déjà?
Ou les retraites indexées sur l'inflation. Voilà, annonce du président
pendant
la campagne. A priori,
il n'y aura pas de plafonnement. C'est-à-dire que ce serait une revalorisation de l'ensemble des pensions au regard de l'inflation.
D'accord. Bon, quel que soit le niveau de retraite aujourd'hui.
Oui, parce qu'on avait un sujet avec les seuils qui font que la dernière revalorisation au mois de février, certains ont passé le seuil qui fait que ce qu'ils ont gagné en revalorisation, ils l'ont perdu et même plus par le fait qu'ils ont été imposés de la CSG.
Okay.
Voilà.
D'accord.
Donc on voulait avoir des précisions là-dessus.
Donc tout le monde va être revalorisé à 4%?
Il n'y aurait pas d'effet de seuil. On ne sait pas encore exactement ce que le gouvernement entend proposer. Je pense avoir compris qu'il veut s'aligner sur ce qu'aura été l'inflation non rattrapée pour le moment par les pensions sur les 12 derniers mois, enfin depuis la dernière revalorisation des pensions. On verra ce qu'il en sera. Nous, on espère que ce serait plus, bien évidemment, parce qu'il y a déficit plus important pensions en termes de pouvoir d'achat. Donc on va voir, on l'a dit, on verra ce que sera la décision, mais il n'y aurait pas de plafonnement et ce serait au 1er juillet. Effectif au 1er juillet. Donc, d'accord, on va voir qui nous a été dit se confirmera. Sur la revalorisation maintenant du pouvoir d'achat pour les salariés en activité, on a redit, pour nous, ça passe par prioritairement le salaire. Et j'ai mis en garde sur l'effet pervers de cette prime de 6 000 euros.
La prime Macron.
Qui deviendrait pérenne, parce que vous pensez bien d'abord que c'est un effet d'affichage. Très peu seront ceux, s'il en est même, qui perçoivent une prime à hauteur de 6 000 euros.
Bien sûr.
Hein, on l'a vu sur les cas précédents où c'était 1 000 euros, par exemple, et où la prime, elle était plutôt de 100 euros, voire de zéro dans pas mal d'entreprises. Donc, premièrement, il faut faire attention à l'effet de communication, l'effet d'affichage. On n'est pas dupe là-dessus. Deuxièmement, je crains fort qu'on ajoute un dispositif supplémentaire qui va exonérer les employeurs de négocier l'augmentation des salaires. Parce que celui qui va donner une prime, il sait qu'elle va être exonérée de cotisations sociales. Donc on va rajouter un dispositif, après les allègements de cotisations dits Fillon, après le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui a été transformé en exonération de cotisations sociales, on va rajouter un dispositif à un niveau important, exonéré de cotisations sociales, donc qui va être privilégié par certaines entreprises quand elles vont pouvoir faire un effort sur la question de la rémunération. Mais je parie que cela, ça va se substituer à des augmentations de salaire pérennes dans les grilles, notamment des conventions collectives ou des entreprises. Donc, j'ai mis en garde le gouvernement là-dessus. Il faut absolument qu'on ait des réponses à cela, parce que nous pensons, nous demandons par exemple un SMIC à 80% du salaire médian. Ça ferait grosso modo de l'ordre de 200 euros supplémentaires sur le net comme sur le brut.
Donc on n'est pas loin des 1500 euros proposés par Jean-Luc
Mélenchon. On est à peu près à 1500 euros. Oui, mais on le proposait avant qu'il n'en parle, puisque nous, on est sur 80% du salaire médian. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait grosso modo, si vous prenez sur une année, ça ne fait même pas les 6000 euros. Sauf que ça, c'est pérenne. Donc moi, je préfère qu'on ait de la négociation sur les salaires, qu'on augmente avec un coup de pouce sensible sur le SMIC et qu'on booste les négociations derrière dans les grilles de salaire.
C'est la question effectivement du moment et comme vous dites, c'était lundi dernier au cœur des rencontres entre Bruno Le Maire et les acteurs économiques à Bercy. Il a dit le travail doit mieux payer et ça doit passer notamment par des hausses de salaire quand c'est possible. Hiverier, il nous reste une minute pour parler de votre succession. Puisque vous passez la main bientôt, le congrès confédéral de Force Ouvrière, ce sera du 29 mai au 3 juin à Rouen. Vous avez deux candidats désignés, déclarés à votre succession. Frédéric Souillot, c'est un métallo. Il est membre du bureau confédéral depuis 2015. Et face à lui, c'est Christian Grolier, qui lui est plutôt chez les fonctionnaires, à la tête de la Fédé des fonctionnaires de Force Ouvrière. Force Ouvrière, pardon. Et que vous avez battu de justesse en 2018. Donc là, il se représente. Est-ce que vous soutenez publiquement l'un des deux candidats? Est-ce qu'il y en a des deux qui pour vous est plus légitime?
Alors, c'est le congrès qui va avoir lieu pendant une semaine. On a près de 3000 représentants délégués des syndicats qui vont participer au débat, qui vont se prononcer sur ce qu'on a fait sur ces 4 dernières années et qui vont ensuite nous donner la feuille de route pour les 4 années à venir. Et c'est une équipe qui va prendre le relais. C'est pas simplement un homme. Les syndicats, c'est pas simplement un homme ou une femme, le secrétaire général. C'est une équipe. Donc c'est une équipe qui va se mettre en place. Et moi, je suis heureux de constater, je pense que ce congrès, il va être rassemblé, déterminé, et que l'équipe qui sera mise en place par nos instances derrière sera, je pense, en pleine capacité d'être, je l'ai dit, à la fois confiante dans l'avenir, de ce qu'on est capable de faire, ambitieuse, avec un esprit de conquête pour Force Ouvrière, et pour Force Ouvrière parce que pour porter le progrès des droits des salariés, la justice sociale. Donc voilà, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, d'abord je ne vote pas moi en l'occurrence,
d'accord.
Donc moi mon rôle aujourd'hui, il va être de rendre compte de l'activité du syndicat, de répondre aux interventions des délégués des syndicats, et ensuite, nos instances éliront celles et ceux dans ces équipes qui vont conduire la politique de la Confédération les 4 années qui viendront.
En 10 secondes, vous ne prenez pas parti, mais votre successeur, aujourd'hui, Force Ouvrière est le 3e syndicat de France. Force Ouvrière doit aller plus haut, rattraper la CGT, la CFDT, ou ce n'est pas le sujet, en fait ?
Si, c'est un sujet, c'est pas tellement en termes de rattrapage. Le sujet, c'est que nous n'avons pas vocation à demeurer la troisième organisation syndicale. Nous avons l'ambition, parce que nous avons la conviction que nous portons efficacement, dans le cadre de la négociation collective, dans la capacité de porter des revendications, dans la capacité, quand il le faut, de mobiliser. On l'a montré, tout cela, sur le sujet des retraites, par exemple, sur le sujet des salaires, dans les branches, dans les entreprises. Donc, on a vocation à grandir, et il faut qu'on se donne les moyens. Ça va être un axe prioritaire de la Confédération de convaincre tous les salariés qui ne sont pas encore convaincus de l'importance de prendre part à l'action du syndicat. On va mettre le paquet sur ce travail-là. Et je tiens à le dire, il faut qu'on rappelle aussi ce que produit le syndicat. On parlait du salaire
en 10 secondes,
du SMIC. En 10 secondes.
C'est fini.
Le SMIC, c'est une conquête syndicale. Il vient d'augmenter à 3 reprises. C'est peut-être pas assez, mais si on ne l'avait pas gagné dans le passé, il n'aurait pas été là, il n'aurait pas augmenté.
Force Ouvrière, conquérant pour l'avenir. Merci Verrier d'avoir été mon invité ce soir dans le Grand Journal de l'Écho. Bientôt 20h sur BFM Business. Je vous rappelle que le Grand Journal est à retrouver en ligne sur les réseaux sociaux et en podcast. On vous remercie d'ailleurs pour votre écoute sur nos podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous écouter, à nous écouter sur ce nouveau média. 20h dans un instant sur BFM Business. Et c'est Tech & Co, toute l'actu de la tech avec François Sorel. Très bonne soirée et à demain dans le Grand Journal.
Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.